Midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Pierre de Villeneuve est là aussi, votre grand journal c'est dans une poignée de secondes et juste après on fait bouger la France. Nous vous emmenons à la découverte du monde sous-marin, c'est la plongée française qui est à l'honneur aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on est très fort ici en France. A tout de suite.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Jamais les radars automatiques n'ont été aussi dégradés que ces derniers mois.
Oui, c'est une boucherie. 4500 dégradations l'an dernier. C'est 4 fois plus qu'en 2017. Europe 1 vous donnait l'info ce matin, en cause les gilets jaunes, mais pas que. Il y a aussi le passage aux 80 km/h, récite cette colère des usagers et des conséquences dès le début de ce journal. Les gilets jaunes, justement, acte 9 demain à Paris, mais aussi à Bourges. Du coup, la préfète du Cher interdit tout rassemblement dans le centre. Sur place, certains commerçants ont déjà décidé de fermer boutique. Nous y serons et nous interrogerons le géographe Jacques Lévy sur cette France oubliée qui pourtant est bien là avec ses problèmes dans le contexte de cette grande crise sociale. Des Français qui sont allés en mairie inscrire leurs doléances sur des cahiers, sur tout ce qui ne va pas. Comment faire le tri ? Encore des dizaines, des centaines de propositions, des centaines de milliers de propositions. Eh bien, le CNRS a un outil numérique high-tech qui va peut-être tout synthétiser. Dans ce journal également, comment le divorce personnel de Jeff Bezos peut-il totalement déstabiliser l'entreprise Amazon ? Les toutes premières retombées sur la garde alternée, comment le vivent les enfants de parents séparés ? Le handball avec la France qui joue ce soir sans Nicolas Karabatic et des idées de sortie avec Diane Chedouda à la fin de cette édition. Elena Morna, météo chagrin.
Oui, sur la moitié nord, sous un ciel bas et de la bruine, les nuages vont progressivement gagner le sud, sauf le pourtour méditerranéen et les Alpes du Sud sous le soleil, mais dans le vent. Chagrin et froid avec 4 degrés à Bourges.
Retour de la météo tout à l'heure, juste avant 13h, Elena Morna.
Europe 1.
Et on commence ce journal par cette information Europe 1. Pierre, jamais les radars automatiques n'ont été aussi dégradé que l'an passé.
Avec 4500 dégradations, je vous le disais en titre, c'est tout simplement 4 fois plus qu'en 2017. C'est vous, Guillaume Mier, qui nous apportiez cette information ce matin. Comment expliquer cet acharnement ?
Eh bien parce que cette fronde d'ampleur inédite contre les radars, elle ne date pas des gilets jaunes, elle a démarré dès le début de l'année 2018. Le déclencheur, ça a été début janvier, la confirmation du passage aux 80 km/h. À partir de là, les dégradations de radars se sont multipliées, 2 fois plus nombreuses que l'hiver précédent. Ensuite, il y a eu un premier pic durant l'été, lorsque l'abaissement de la vitesse est réellement entré en vigueur. Et puis un second pic historique, là, à l'automne, avec les gilets jaunes. Je vous donne un exemple. Rien qu'en novembre, il y a eu plus d'attaques de radars que durant toute l'année 2017. Bilan, d'après nos informations, les forces de l'ordre ont recensé effectivement plus de 4500 actes de vandalisme sur les radars l'an dernier. 4 fois plus qu'en 2017. Certaines machines ont été attaquées plusieurs fois. Au total, plus de 600 appareils totalement détruits. C'est effectivement du jamais vu. Alors tous ces chiffres, la sécurité routière refuse obstinément d'en parler. Elle ne veut pas parler non plus du coût de ces dégradations. D'après nos calculs, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Et le phénomène continue et le silence de la sécurité routière n'y change rien. Sachez que depuis le mois dernier, chaque nuit, 1 à 2 radars sont détruits.
Merci Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Les gilets jaunes, vous en parliez Guillaume. Demain, acte 9 auquel le gouvernement se prépare avec la fermeté affichée en début de semaine par Édouard Philippe.
Et ce sont 80 000 policiers et gendarmes, Pierre, qui seront mobilisés demain sur tout le territoire, une grande partie dans la capitale, mais aussi à Bourges, dans le Cher, puisque c'est là que les gilets jaunes ont décidé de manifester. La préfète a d'ores et déjà interdit tout rassemblement dans le centre-ville.
Jean-Jacques Herry, vous êtes sur place. Selon Facebook, il y aurait plus de 2700 personnes susceptibles de manifester. Et justement, on en sait plus sur l'organisation côté Gilets jaunes.
Oui Pierre, et c'est très empirique puisque même parmi les membres du mouvement, on n'a aucune idée du nombre de manifestants. Je me suis rendu sur le parking d'où devrait partir la manifestation demain. J'y ai retrouvé Serge, retraité.
Nous, nous n'invitons personne, ils se sentent invités en disant c'est le centre de la France, on veut faire voir qu'il n'y a pas que Paris. On va les accueillir, on va aller en gare les accueillir et tout. Continuer sur le mouvement, qui est un mouvement qui se veut pacifique, apolitique antisyndicale.
Vous l'entendez, les Gilets jaunes tiennent à insister sur le caractère pacifique de leur manifestation. Nous respecterons l'interdiction d'aller dans le centre-ville prise par la préfecture, disent-ils, parce que c'est effectivement là que ça pourrait dégénérer. Le parcours du cortège, donc sur les boulevards extérieurs, tout le monde le connaît, y compris les autorités. Mais la manifestation n'a pas été déclarée. Catherine Ferrier, préfète du Cher.
La procédure formelle de déclaration avec des noms de personnes responsables du rassemblement, je ne l'ai pas. Donc, elle est illégale.
On vient d'apprendre que des renforts de police viendront durcir le dispositif de sécurité. Mais ce qui semble surtout rassurer les autorités, et c'est paradoxal, hein, c'est que la CGT a elle aussi annoncé une manifestation déclarée en préfecture. Celle-là, manifestation qui suit exactement le même parcours que celle des Gilets jaunes. Les participants pourraient donc se retrouver à défiler ensemble. Mais les syndicats, au moins, ils savent gérer ce genre de choses, m'a-t-on glissé à la préfecture.
Merci Jean-Jacques Herry, envoyé spécial d'Europe 1 à Bourges. Et manifestation également prévue à Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes ou encore Rennes.
Et cette France qui manifeste, Pierre, eh bien, certains l'observent, l'analysent aussi. C'est le cas de Jacques Lévy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes spécialiste de géographie politique. Vous avez co-signé dernièrement un livre sur la justice spatiale. D'abord, peut-être le choix de Bourges. Comment est-ce que vous comprenez que ce soit cette ville-là qui ait été sélectionnée parce qu'elle est au centre de la France ?
Oui, c'est intéressant de voir l'argument au centre de la France. Par la voiture, probablement, Bourges serait relativement proche du centre de la France. En TGV, certainement pas. Donc, une fois de plus, on voit le tropisme automobile des Gilets jaunes. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est intéressant aussi de constater que depuis une dizaine d'années, donc bien avant le mouvement des Gilets jaunes, il y a une tendance à ce que les petites villes ou les villes moyennes aient plus de succès dans les manifestations qui y sont organisées que les grandes villes. Autrefois, il fallait aller à Paris pour faire de grandes manifestations. On a vu justement avec les Gilets jaunes que les Parisiens participaient peu. Et quand je dis les Parisiens, c'est aussi les Franciliens dans leur ensemble, participaient peu aux initiatives des Gilets jaunes. Et c'est ce qu'on constate depuis assez longtemps, que finalement, en proportion par rapport au nombre d'habitants, finalement, Paris n'envoie pas que peu de manifestants, alors que Bourges, par exemple, est une ville où on manifeste volontiers. Donc
mais ça, vous l'appréciez comment ? Vous l'appréciez comment, justement ? Parce que les grandes villes sont médiatisées, les petites villes moins.
Oui, c'est ça. Les Gilets jaunes sont allés dans les grandes villes avec l'idée qu'il y aurait une plus grande visibilité, puisque tout leur mouvement repose sur l'idée de se rendre enfin visible.
Mais aujourd'hui, mais avec le numérique, ouais. On peut être visible de partout. Regardez Jacqueline Moureau, qui, du fin fond du Morbihan, s'est fait connaître.
C'est vrai, entre eux, effectivement, il n'y a pas besoin d'être dans les grandes villes. En revanche, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la scène publique, en tout cas, c'est comme ça qu'eux-mêmes le voient. Ils avaient envie d'être à Paris, ils ont encore envie, puisqu'il y aura une manifestation aussi à Paris, hein, je crois, demain.
Mmh. Oui.
Mais effectivement, l'idée qu'ils représentent une France non métropolitaine fait partie aussi de leur message. Donc, ce n'est pas totalement illogique qu'ils aient choisi une ville plus petite.
Et dans ce contexte, comment est-ce que vous voyez le grand débat national qui se profile ?
Oui, c'est la grande question aujourd'hui. On a une partie de la population, une partie des citoyens qui sont montés sur la scène politique alors qu'ils s'en sentaient exclus et qu'on ne les attendait pas. Ça me paraît un événement très positif du point de vue de la vie publique. Le problème, c'est comment on va faire pour qu'ils y restent dans des conditions convenables, c'est-à-dire sans violence.
Passer à une démocratie directe, c'est ça hein, le sujet.
Justement, à mon avis, la démocratie directe, c'est probablement le moins bon moyen pour faire discuter les citoyens ensemble. La démocratie directe, comme on le voit en Suisse, par exemple, c'est extrêmement brutal.
C'est à des échelons cantonaux qui sont infiniment petits. Je veux dire, on parle du canton d'Appenzell, on n'est pas du tout à 66 millions d'habitants. Hein.
Mais également au niveau fédéral, où là, on est plutôt dans une population de 8 millions d'habitants, donc ça commence à être plus ressemblant à ce qu'on peut avoir en France. Et à ce moment-là, on voit que quand il y a une décision qui est prise, c'est extrêmement dur de revenir en arrière parce qu'il y a cette idée que le peuple a toujours raison, qu'il n'y a pas de contrôle constitutionnel.
Et il y a des conséquences également sur les traités internationaux. Vous avez tout à fait raison de le dire. Merci beaucoup Jacques Lévy. Vous co-signez Théorie de la justice spatiale, géographie du juste et de l'injuste aux éditions Odile Jacob.
Et il est 12h38 sur Europe 1. La suite du journal Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
En attendant Pierre, eh bien, le gouvernement poursuit sa lancée vers le grand débat. Il commence dans 4 jours et à ce titre, Édouard Philippe a reçu ce matin une partie des partenaires sociaux.
Oui, une partie seulement, hein, puisque la CGT et Solidaires n'ont pas daigné se rendre à Matignon. Où vous êtes Anne-Laure Jumet? Qu'est-ce qu'on retient des discussions?
Alors, les partenaires sociaux d'abord n'ont pas obtenu ce matin de précision sur les modalités du grand débat, mais ils ont pu s'exprimer chacun avec leur sensibilité. Force ouvrière appelle ainsi à régler sans attendre la question des salaires et des services publics et ne souhaite pas être co-organisateur de ce grand débat. Du côté de la CFDT, on ne veut pas non plus se poser en co-organisateur et son secrétaire général, Laurent Berger, demande d'ores et déjà au gouvernement de cadrer les réponses apportées à l'issue de la concertation.
Nous avons demandé qu'à l'issue de ce débat s'organise une sorte de Grenelle du pouvoir de vivre qui reprendrait sur les thèmes du débat des propositions concrètes qui seraient débattues avec les associations, les organisations syndicales, patronales, pour essayer de faire émerger des solutions concrètes.
Un Grenelle du pouvoir de vivre qui permettrait en plus de remettre au centre du jeu les corps intermédiaires. Alors du côté du patronat, on va organiser des remontées de terrain. La CPME consulte ses adhérents en ce moment. L'UDEP, qui représente les entreprises artisanales, va orchestrer ses propres débats au niveau local. Voilà pour les partenaires sociaux. En ce moment, le Premier ministre consulte le monde associatif sur ce grand débat. Et pour les modalités, il faudra attendre. Édouard Philippe s'exprimera lundi sur le sujet.
Merci Anne-Laure Jumet en direct de Matignon pour Europe 1. Une question maintenant, comment les doléances des Français seront-elles centralisées? Difficile de faire le tri entre des milliers et des milliers de propositions.
Oui, sauf que le CNRS a peut-être trouvé la solution en présentant un outil numérique. Cet après-midi, une délégation de Gilets jaunes, Pierre, sera reçue justement par la commission du débat public. Et cet outil high-tech, il voudrait bien, Théo Manval, qu'on l'utilise.
Exactement. Alors, comment ça marche, me direz-vous? Eh bien, c'est un site sur lequel tout le monde pourrait entrer sa proposition en 180 caractères. Tout le monde pourrait ensuite voter pour ou contre ses propositions. Et à la fin, le logiciel compilerait tout ça par mots-clés pour en faire une synthèse lisible. C'est ce qu'explique Eliane Calliol. Il est gilet jaune et il a participé à la mise au point.
Sous la forme d'un graphique en 3 dimensions, très visuel, très facile à comprendre. On va pouvoir voir quelles sont les propositions, les revendications qui concernent les gens, qui suscitent le plus d'intérêt, le plus de réactions de désapprobation ou de réactions d'approbation.
Un immense scanner, en quelque sorte, développé, vous le disiez, par des mathématiciens du CNRS. L'un d'entre eux sera d'ailleurs du rendez-vous cet après-midi à la commission du débat public. Et si les Gilets jaunes veulent en faire l'outil officiel de remontée des propositions, c'est pour, dit l'un d'entre eux, Christophe Chalençon, que les autorités ne puissent pas ignorer au final telle ou telle revendication.
Le gouvernement a voulu faire de l'enfumage en nous mettant à disposition des cahiers d'écoliers et une locomotive à vapeur du 19e siècle. Et nous arrivons avec le TGV du 3e millénaire. Donc aujourd'hui, tout va être abordé pour servir la démocratie.
Alors reste à savoir si l'État acceptera ou non la proposition, si préférera sa propre plateforme qui n'est pas encore mise en ligne.
Merci de ces précisions, Théo Manval.
Il est 12h42.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Comment est-ce qu'un divorce peut affecter l'entreprise la plus puissante au monde? La réponse sur Europe 1.
Il est 12h44 sur Europe 1. La suite du journal Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Jeff Bezos divorce, Pierre. Et on a envie de dire « et alors ?»
Exactement, on a envie de dire « et alors ?» Mais c'est pas si simple, car en France, on sait encore faire la distinction entre vie publique, vie privée. Encore que, aux États-Unis, c'est un peu différent. À l'annonce de ce divorce du patron d'Amazon, l'Amérique frémit. Justin Morin, comment une affaire privée peut-elle déstabiliser une entreprise de l'envergure d'Amazon?
Eh bien, parce que c'est une affaire de cœur et de gros sous. Mackenzie Bezos a eu un rôle clé dans la création de l'Empire en 1994, un an après leur mariage. Elle a été l'une des premières salariées d'Amazon. La légende veut même que le business plan ait été rédigé sur un ordinateur portable lors d'une virée du couple entre New York et Seattle. Plus de 20 ans après, Amazon est la plus grosse valeur boursière mondiale, estimée à, attention les oreilles, 807 milliards de dollars. Jeff Bezos en possède un peu plus de 16%, ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde avec, attention encore, plus de 137 milliards de dollars selon un classement de Bloomberg. Et l'enjeu, il est là. Tout va dépendre de l'existence ou non d'un contrat de mariage ou d'un accord établi au préalable par le couple. un accord qui règle la répartition de cette fortune. Alors, selon les différents scénarios, Mackenzie Bezos pourrait récupérer des parts et avoir de l'influence sur l'évolution d'Amazon. Et c'est là qu'intervient l'affaire de cœur. Il faut espérer que Jeff et Mackenzie se séparent en bons termes pour éviter des confrontations de points de vue sur l'avenir de l'entreprise et donc des incertitudes jamais bonnes dans le monde de la finance. Alors, si l'on en croit le tweet d'annonce du divorce, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous voyons un merveilleux futur en tant que parents, amis, partenaires dans une entreprise poursuivant une aventure. Selon une avocate spécialisée sur ce type de dossier cité par le Wall Street Journal, s'ils sont intelligents, ils n'en diront pas plus. Ils ont tous les deux intérêt à régler cette affaire en privé et en silence. Business is business.
On aurait dû mettre le générique de Dallas. Merci Justin Morin. C'est fait, Carlos Ghosn a de nouveau été inculpé par la justice japonaise. Il fait l'objet de deux nouvelles inculpations. Ses avocats ont déposé une demande de libération sous caution, mais qui a très peu de chances d'aboutir. Carlos Ghosn, qui resterait donc en prison au moins jusqu'au 10 mars et peut-être encore les 6 prochains mois.
Évidemment, la question qui se pose, c'est quid pour Renault? Une nouvelle réunion du conseil d'administration a lieu ce soir. Comment est-ce qu'on compte s'organiser, Emmanuel Dutheil ?
Eh bien, je peux vous dire que son remplacement n'est plus une question taboue du tout du côté de chez Renault. On s'approche du moment où l'absence de Carlos Ghosn ne peut pas durer plus longtemps. Voilà ce que m'a dit, hein, il n'y a pas plus longtemps qu'hier, un acteur de premier plan du dossier. Même si une gouvernance intérimaire a été mise en place, il manque une personne de poids pour incarner l'alliance et peser face à Nissan. Il manque aussi une personne capable de prendre les grandes décisions stratégiques pour l'avenir de Renault. Du coup, le comité des nominations devrait bientôt lancer ses recherches pour trouver la perle rare. Alors le CV est prêt, il faut un profil international, il faut avoir géré une grosse entreprise privée, il faut connaître l'automobile et le marché japonais, puis en plus si la personne pouvait être française, là, ce serait vraiment génial. Alors parmi les noms qui circulent, on a uniquement des Français pour le moment. Jean-Dominique Sénard, c'est le patron de Michelin. Il va bientôt quitter la direction de Michelin. C'est un bon profil, reconnaît-on dans les couloirs de Bercy. On parle aussi de Didier Leroy. Lui, c'est le numéro 2 de Toyota. Donc lui, il connaît très très bien le Japon. Mais on parle aussi de Patrick Pellatin, ancien numéro 2 de Renault, artisan de la relance de Nissan. Il coche lui aussi pas mal de cases. En tout cas, il va falloir aller très vite. L'avenir de l'Alliance et donc l'avenir du tout premier constructeur mondial est en jeu.
Merci Emmanuel Dutheil. Ce serait une belle revanche pour Patrick Pellatin qui a quitté le groupe Renault dans des circonstances assez rocambolesques. Et en tout cas, on en a sans doute parlé hier soir à ce conseil d'administration.
Il est 12h48 sur Europe 1. La suite du journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Avec un chiffre, Pierre, 400 000 enfants de moins de 18 ans se retrouvent en garde alternée.
Oui, et ce mode de garde alternée, une semaine chez papa, une semaine chez maman, progresse. Et au-delà des statistiques, Europe 1 a voulu savoir quel était le ressenti des enfants. Vous avez enquêté, Eve Roger.
Et oui, déjà 400 000, ça ne paraît pas beaucoup. Comme ça, c'est 10% des enfants de parents séparés. Mais ça ne cesse d'augmenter. Alors bien sûr, on s'en doute, ça ne convient pas à tous. Il y a plein de détails qui gênent certains enfants auxquels on ne pense pas. Vous allez entendre Martin. Aujourd'hui, c'est un jeune adulte, mais à 13 ans, il a dû pratiquer le une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, et il n'en garde pas forcément un très bon souvenir.
Au bout de quelques années, j'ai ressenti le besoin vraiment d'avoir qu'une seule maison, un seul foyer et de plus bouger. Chez mon père, c'était beaucoup moins confortable. Au début, je partageais la même chambre avec ma sœur, c'était beaucoup plus petit. J'avais pas de bureau pour travailler alors que j'étais au collège. Il y avait aussi le problème de la valise. À chaque fois qu'on changeait de maison, il fallait repenser toute la logistique. Est-ce que j'ai rien oublié? Et c'est assez pesant à la longue.
Oui, c'est une génération de spécialistes de la valise. Mais pour le psychiatre Serge Effez, pour que ça marche, il faut plusieurs conditions. D'abord, faire attention à l'âge des enfants.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas mettre un bébé de 6 mois en garde alternée une semaine, une semaine. Ça serait de la folie. À partir de 3, 4, 5 ans, les choses vont rouler. Au moment de l'adolescence, il faut être à l'écoute de la façon dont ils ressentent les choses. Il peut y avoir des périodes plus papa, des périodes plus maman. Là, je pense qu'il faut plus de souplesse.
Et puis, autre condition, indispensable que chaque parent ait les moyens d'avoir un appartement suffisamment spacieux pour accueillir les enfants une semaine sur deux. D'ailleurs, l'INSEE le dit, c'est surtout dans les familles aisées que la pratique est répandue.
Merci de ces précisions, Eve Roger, chef du service Société. Angela Merkel à Athènes est une sortie forte de la chancelière allemande, puisqu'elle affirme que l'Allemagne est consciente de sa responsabilité historique pour la souffrance infligée en Grèce pendant la période nazie.
Il est 12h50.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Vos idées de sortie pour ce week-end. A tout de suite.
Il est 12h52 sur Europe 1. La suite du journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et avec le sport, Pierre et le handball. Et ce soir, la France joue contre le Brésil au Mondial en Allemagne.
Oui, la France tenante du titre. Christophe Lamar, vous êtes en ligne de Berlin. Nicolas Karabatic est absent. Est-ce que ça veut dire que les Bleus n'ont aucune chance? Christophe Lamarre.
Fort quand même, vous y allez un petit peu fort quand même. Ses chances sont moindres, mais elles demeurent. La France continue de faire peur à ses adversaires, même sans sa star, c'est vrai. Nicolas Karabatic est une référence à son poste. C'est aussi le grand frère, le patron, celui qui prend la balle quand la situation se tend, quand le match refuse de basculer. Lui, son bras ne tremble jamais. Sans lui, les Bleus vont devoir prendre des responsabilités, sortir de leur zone de confort. Les Valentin Porte, Luka Karabatic, Michael Guigou, pour ne citer qu'eux, en sont parfaitement capables. D'ailleurs, l'équipe convoquée par le sélectionneur Didier Dinard ferait le bonheur de n'importe quelle sélection. Le talent est indiscutable, mais l'expérience des grandes compétitions peut faire défaut. Sur les 16 joueurs retenus par l'encadrement, il ne reste que 5 éléments sacrés champions du monde au Qatar et en France. Cela situe le niveau et la capacité de renouvellement de cette équipe. D'ailleurs, en dehors de Nicolas Karabatic convalescent, un autre joueur vient d'être écarté, c'est Melvin Richardson, le fils de Jackson Richardson, aussi talentueux que son père et victime de la concurrence sévère à son poste. Il reste à Berlin en réserve, au cas où.
Merci Christophe Lamarre en direct de Berlin pour Europe 1.
Et comme tous les vendredis, des idées culture pour notre week-end aujourd'hui. C'est avec vous, Diane Chenouda, bonjour.
Oui, bonjour Raphaël, bonjour Pierre, bonjour, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Diane. On commence par le retour de Danny Boone sur les planches.
Oui, c'est l'événement théâtral de cette rentrée de janvier à Paris. Danny Boone remonte sur scène 10 ans après le dîner de cons. C'est à partir de ce soir, dans 8 euros de l'heure, au Théâtre Antoine, une comédie qui raconte l'histoire d'un couple qui bizarrement vit les mêmes mésaventures que sa femme de ménage. Alors pour ce grand retour, Danny Boone a beaucoup travaillé, comme l'explique Jean-Marc Dumonté, le propriétaire du Théâtre Antoine.
On pourrait croire que ce type qui accumule tous les succès arrive de façon un peu dilettante. Mais non, de façon, j'allais dire, presque scolaire, il est arrivé au théâtre avec son texte su pour aborder les répétitions de la meilleure façon. C'est du travail, mais il y a aussi un talent qui est assez insolent.
Jean-Marc Dumonté au micro de Thierry Giffretin, Danny Boone qui partage l'affiche avec Valérie Bonneton. Alors, ça va dépoter. Hein.
Vous, Diane, qui aimez l'art, oui, qui suivez toutes les expositions, vous en avez bien une ou deux à nous conseiller.
Absolument, Pierre. Plus que quelques jours, ou plus que quelques soirs plutôt, jusqu'à mardi prochain pour s'émerveiller en famille du Festival des Lumières au Jardin des Plantes à Paris. Espèce en voie d'illumination, un parcours féerique entre des statues géantes et lumineuses d'animaux, des dinosaures aux ours blancs, des mammouths aux tortues et aux pingouins. Et puis, moi j'adore la peintre américaine Joan Mitchell. Vous savez, c'est de l'abstraction lyrique magnifique. Une évocation de la nature bien souvent, avec une palette de couleurs, des bleus, des verts, tout en mouvement, une peinture intense à découvrir à Landerneau au fond Hélène et Édouard Leclerc.
Et on termine en musique.
Ah oui, avec Clara Luciani, je ne sais pas si vous la connaissez.
Eh oui,
elle a 26
Grenade.
Ans, très bien. Elle est nominée aux Victoires de la musique pour la révélation scène.
Non,
tu la connais, vous la connaissez pas?
Non, je la connais pas.
Ça vous plaît?
C'est Hélène Mordin qui
oui,
qui
bah,
parle.
Vous me posez la question, mais ça a l'air très sympa.
On vous prend des beautés.
Bah maintenant, vous connaissez Hélène.
Oui, bah, je vais écouter tout de suite en sortant après la météo.
Clara Luciani et la cérémonie des victoires de la musique aura lieu le 8 février.
Merci Diane.
Merci Pierre.
Merci à vous.
Tout de suite pour l'essentiel de l'actualité.
Il est 12h56.
Europe 1.
Restez avec nous, sortez les masques, les tubas, on part en immersion dans le monde de la plongée française. A tout de suite.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Doux, gris, humide au nord, froid, clair.
Oula.
Venteux, ventilé comme vous voulez au sud, Hélène Morna.
C'est vrai, vous avez presque tout dit, une ambiance bien brumeuse avec de la bruine qui fait friser sur la moitié nord, nuages et petites pluies qui vont gagner le Poitou-Charentes, la Gironde, l'Auvergne, la Franche-Comté d'ici ce soir. Alors sur la partie nord-est, la neige remplace la pluie, un saupoudrage sur les plaines du nord-est et quelques centimètres à partir de 300 mètres. Alors du sud-ouest au sud de l'Auvergne et au Lyonnais, c'est variable, nuages éclaircis, un peu plus de nuages que d'éclaircis. Et puis près de la Méditerranée jusqu'aux Alpes, effectivement, du ciel bleu et toujours ce Mistral et Tramontane à 90 km/h. Alors, on a eu froid ce matin, notamment en Provence, moins 8 degrés dans l'arrière-pays. Et le Mistral qui accentue cette sensation de froid cet après-midi, eh bien, on aura parfois de belles amplitudes, notamment à l'abri du vent. Toulon, par exemple, qui était à moins 2 degrés, va passer à 13 degrés. Ce sera d'ailleurs la maximale. Sur le nord-est, jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on restera au frais avec moins 1 à 4 degrés. Plus doux sous la pluie, avec 7 à Paris, 8 à Lille comme à Perpignan. Là, on est en dessous des normales de saison pour Perpignan. 10 degrés à Brest.
Merci, Hélène. Nous sommes le vendredi 11 janvier. C'est l'heure des titres. Pierre de Villeneuve.
À Bourges, plus de 2700 personnes comptent manifester demain, selon Facebook, alors que la préfète du Cher décide de fermer le centre-ville. 4500 radars automatiques dégradés en 2018. C'est 4 fois plus que l'année précédente. En cause, les gilets jaunes, mais surtout le passage à 80 km/h. Et puis la France joue ce soir contre le Brésil dans le mondial de handball. Nicolas Karabatic n'est pas sur le terrain.
Merci Pierre, à tout à l'heure, juste avant 14h.